France Culture.
C'est l'heure de retrouver le journal de la rédaction, journal présenté par Mathilde Ansker. Bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie s'écrit à Bougival. Après 10 jours de discussions dans les Yvelines entre les principales forces politiques de l'archipel, un projet d'accord historique a été trouvé. On vous explique tout dès le début de ce journal. Nous irons aussi en Inde. Un mois après la mort de 260 personnes dans un crash d'avion, le premier rapport d'enquête vient d'être publié. Les familles savent désormais comment l'avion s'est écrasé, reste encore à comprendre le pourquoi. On vous expliquera aussi les conséquences de ces sables du Sahara qui tombent régulièrement. Aucune région du monde n'est épargnée. Nous irons ensuite en Serbie où le plus célèbre festival de musique du pays est menacé par le pouvoir. Enfin, un petit tour au musée à Aix-en-Provence. On vous fait découvrir l'exposition inédite Cézanne au Jazz de Bouffan. 135 œuvres réunies dans un seul lieu et l'occasion de plonger dans l'intimité de l'artiste. C'est un projet d'accord historique pour l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Après 10 jours de discussions à huis clos entre les principales forces politiques de l'archipel, elles sont tombées d'accord ce matin. Il faut maintenant que le texte soit validé par la population calédonienne. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Mathilde.
Stéphane, ce texte prévoit la création d'un État calédonien qui resterait intégré à la République française. Une nationalité calédonienne serait aussi créée.
Oui, pour le moment c'est un projet d'accord, puisqu'il doit encore être soumis à la population calédonienne et validé par un vote des Calédoniens avant d'entrer en vigueur dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et ce sera une étape importante, puisque chaque camp indépendantiste et non-indépendantiste devra convaincre ses partisans, et ce ne sera sans doute pas une mince affaire. En attendant, c'est effectivement un accord historique, intervenu très tôt ce matin, aux alentours de 6h30, à l'issue d'une longue nuit de négociations et d'une dizaine de jours de discussions qui se sont tenues dans un hôtel à Bougival, dans les Yvelines, en banlieue parisienne. Cet accord prévoit donc la création d'un État calédonien et d'une nationalité calédonienne conjointement à la nationalité française, ce qui fait que les citoyens calédoniens auraient à l'avenir une double nationalité. Cet État calédonien resterait intégré à la République française avec une inscription dans la Constitution, mais il pourrait être reconnu par la communauté internationale, dit le document. Par ailleurs, les compétences en matière de relations internationales seraient entièrement transférées à la Nouvelle-Calédonie. Concernant les autres compétences régaliennes en matière de défense, de sécurité publique, de justice, de monnaie, elles resteraient du ressort des autorités françaises, mais les autorités calédoniennes, le gouvernement, le congrès, les provinces seraient associées à leur exercice. Il est notamment prévu la possibilité de créer une police provinciale ou encore une police coutumière.
Et concernant le corps électoral, Stéphane, il sera dégelé.
Oui, ça c'est un point très important, puisque le dégel du corps électoral est ce qui avait déclenché les émeutes l'année dernière, qui ont duré plusieurs semaines et qui ont fait 14 morts et plus de 2 milliards d'euros de dégâts. Jusqu'ici, seuls les Calédoniens présents avant 1998 en Nouvelle-Calédonie pouvaient voter aux élections provinciales. En vertu de cet accord, pour les prochaines élections provinciales, dont l'organisation serait reportée au mois de mai et juin 2026, il faudrait justifier de 15 ans de présence dans l'archipel pour pouvoir voter. Et ensuite, pour les élections suivantes, ce délai de présence minimum serait ramené à 10 ans, selon des dispositions qui restent encore à discuter. D'autres changements concernent le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, dont le nombre de membres serait porté à 56 contre 54 actuellement. Et puis les provinces seraient dotées d'une compétence fiscale avec la possibilité de lever des impôts dont elles décideraient de l'utilisation. La France, pour sa part, s'engage à financer en partie la reconstruction de l'archipel ainsi que son désendettement. Un plan nickel pour redresser la filière fait également partie intégrante de l'accord. Un accord obtenu de façon presque inespérée. Personne, il y a quelques jours encore, n'imaginait véritablement qu'il serait trouvé.
Et précision signée Stéphane Robert. Le Parlement doit maintenant être réuni en congrès à Versailles à l'automne pour constitutionnaliser cet accord, avant donc le référendum sur place. Du côté du gouvernement, François Bayrou salue un accord, je cite, « à la hauteur de l'histoire ». Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, parle d'un engagement majeur. Les partenaires calédoniens ont fait le choix du courage et de la responsabilité, écrit-il. Nicolas Metzdorf est député Ensemble pour la République de Nouvelle-Calédonie. Il est loyaliste et se réjouit de cet accord.
On a créé un statut, ce qu'on appelle sui generis en droit français. Ça veut dire que c'est de son propre genre. Parce qu'on a une nationalité, mais en même temps, on est au sein de la République française, puisque l'État continue d'exercer les compétences régaliennes comme la défense, la monnaie, la justice, la police. Donc, c'est un statut qui évolue finalement très peu comparé à celui de l'accord de Nouméa. Simplement, on transforme la citoyenneté calédonienne qui existait déjà en une forme de nationalité. Alors, c'est un peu un ovni juridique, donc il va falloir qu'on creuse le sujet. Ce qu'il y a intéressant aussi, surtout, c'est qu'on n'a plus prévu de référendum. La Nouvelle-Calédonie, elle vit au rythme des référendums sur son indépendance ou pas. Et aujourd'hui, c'est terminé. On rentre dans une nouvelle phase, une nouvelle page de notre histoire. Et ça, c'était une grosse demande de notre part, les non-indépendantistes. Et on l'a obtenu en concédant cette forme de nationalité.
Nicolas Metzdorf, député Ensemble pour la République de Nouvelle-Calédonie, interrogé par nos confrères de France Info. Emmanuel Macron instaure une journée nationale de commémoration pour Alfred Dreyfus, cet officier juif accusé injustement de trahison à la fin du 19e siècle. L'affaire Dreyfus a ensuite déchiré l'opinion française pendant plus de 10 ans sur fond d'antisémitisme. Une cérémonie se tiendra donc tous les ans, le 12 juillet à partir de l'année prochaine. Le 12 juillet, c'est la date de l'arrêt qui a mis fin judiciairement à cette affaire en 1906. Emmanuel Macron, de son côté, met en garde contre, je cite, « les vieux démons antisémites engendrés par la haine ». Un mois après le crash d'un avion Air India dans le nord du pays, on en sait un petit peu plus sur cet accident qui a eu lieu juste après le décollage de l'appareil. Le premier rapport d'enquête a été publié aujourd'hui par les autorités indiennes qui ont collaboré avec Boeing et le gouvernement américain. 260 personnes sont mortes dans ce crash. Seul un passager a survécu. Notre correspondant à Bangalore, Com Bastin.
Si l'on sait maintenant comment l'avion s'est écrasé, on ne sait toujours pas vraiment pourquoi. Alors qu'il s'envolait, les interrupteurs de contrôle du carburant de l'avion sont mystérieusement passés en position éteinte, stoppant l'alimentation des moteurs. L'enregistrement audio du cockpit montre que les deux pilotes ont été surpris, alors que ces interrupteurs sont normalement verrouillés. L'alimentation des moteurs a été relancée, mais l'avion volait trop bas pour éviter le crash. Le rapport ne fournit pas d'explication sur ce qui a désactivé les interrupteurs carburant. S'agit-il donc d'une erreur à imputer au pilote, d'une défaillance technique de l'appareil Boeing, d'un manque d'entretien de la compagnie Air India ? On ne le sait pas, même si plusieurs experts penchent pour une erreur humaine. Malgré la douleur des familles et l'impatience de l'opinion publique en Inde, l'enquête va encore durer un an. Ses résultats pourraient impacter sévèrement Boeing, mais aussi Air India, la compagnie nationale récemment privatisée par l'État indien. Le ministère de l'Aviation appelle à ne pas tirer de conclusions hâtives. Le marché aérien se développe très rapidement en Inde, mais un crash de cette ampleur n'a pas eu lieu depuis 2010.
Les précisions de Com Bastin. Ils se disent profondément inquiets par la situation en Géorgie. 17 pays européens, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, signent ce midi une déclaration. Ils expriment leurs préoccupations alors qu'une vague de répression contre les opposants sévit dans le pays. Les signataires préviennent « Nous n'hésiterons pas à utiliser toute la panoplie d'outils à notre disposition si les autorités géorgiennes continuent de prendre des mesures qui portent atteinte à la démocratie et aux droits de l'homme. » C'est un spectacle auquel on s'est presque habitué. Les poussières du Sahara qui viennent obscurcir le ciel, qui restent incrustées ensuite sur les tables de jardin et les fenêtres de toit. Le dernier épisode date d'il y a quelques semaines. C'était en Guadeloupe et Martinique. Pour la France métropolitaine, les dernières poussières sont arrivées le mois dernier. Et selon l'Organisation météorologique mondiale, aucune région du monde n'est épargnée. Et les conséquences dépassent largement les seules vitres sales de nos voitures. Le reportage à Genève de Jérémy Lange.
Chaque année, 2 milliards de tonnes de sable et de poussière sont envoyées dans l'atmosphère. La grande majorité vient des régions désertiques du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Mais leurs traces se retrouvent de plus en plus loin, explique Sarah Bazar. Elle est responsable scientifique à l'OMM.
Ce qui change, c'est qu'on a de plus en plus de tempêtes de sable dans des endroits où il n'y en a normalement pas et où la densité de population est importante. Ça affecte les gens, mais aussi l'économie.
Le lien avec le réchauffement climatique est encore mal compris, mais des températures plus chaudes, ça veut dire plus de régions arides et plus de sols exposés au vent. Ce qu'on comprend bien, par contre, c'est pourquoi les tempêtes de sable posent problème.
L'impact le plus évident, c'est que ça trouble la visibilité des transports au sol, mais aussi des avions. En ce qui concerne l'énergie solaire, le sable empêche le rayonnement du soleil d'atteindre correctement les panneaux. Dans l'agriculture aussi, il y a des conséquences. Le sable peut détruire des plants.
À l'inverse, le sable peut aussi jouer un rôle de fertilisant, comme pour la forêt. forêt amazonienne. Preuve que le dossier est complexe, complexe et coûteux. L'une des rares études sur le sujet estime qu'en 2017, les tempêtes de sable ont causé plus de 150 milliards de dollars de pertes à l'économie américaine.
Jérémy Lanche de RFI pour France Culture. Une fumée grise au milieu du désert. Plusieurs centaines de touristes et des habitants ont été évacués du Grand Canyon hier à cause de deux incendies déclenchés par la foudre, le premier le 4 juillet, l'autre mercredi dernier. Le Grand Canyon, où une alerte pour chaleurs extrêmes a également été émise cette semaine, avec des températures qui peuvent dépasser les 46 degrés à l'ombre. En Serbie, quand le pouvoir politique s'en prend au plus célèbre festival de musique du pays. Après 25 ans d'existence, le festival Exit est menacé. Il a commencé jeudi et se termine demain, à l'affiche notamment les Sex Pistols ou DJ Snake. Sauf que, ce festival avait apporté son soutien au mouvement étudiant contre la corruption. Alors, le régime du président Vučić contre-attaque et vise le portefeuille, quitte à affaiblir l'économie du pays. Laurent Rouille.
Directeur du célèbre festival musical, Dušan Kovačević ne s'attendait pas à être pris pour cible par le régime.
D'abord, ils ont menacé de nous supprimer les subventions que nous recevons chaque année. Puis ils ont mis leurs menaces à exécution. Cet argent qu'ils investissent leur revient pourtant, puisque chaque année, Exit rapporte entre 25 et 30 millions d'euros à la Serbie.
Le festival est soutenu par des groupes qui défendent aussi des valeurs démocratiques, tels que Atheist Rap, un groupe de musique punk, comme son nom ne l'indique pas. Le bassiste Zoran Lekic témoigne du prix à payer pour avoir exprimé publiquement son opposition au régime.
On annule nos concerts, par exemple ceux qui sont financés par les mairies. En Serbie, toutes les mairies sont aux mains du parti au pouvoir. Les boîtes de nuit nous expliquent qu'elles subissent des pressions pour annuler les concerts, sous peine de voir débarquer des commissions de sécurité ou des agents du fisc. Voilà le genre de méthode employée par ce régime.
En face, les étudiants profitent de la visibilité du festival pour informer le public, comme le note Alexa, un étudiant ayant participé à un blocage dans l'après-midi.
Le blocage du pont aujourd'hui était juste une performance pour montrer aux visiteurs étrangers que notre lutte continue. Les gens étaient très peu informés, mais ils ont compris que c'était une bataille pour la démocratie.
Le festival Exit envisage de déménager à l'étranger l'an prochain. La vitrine culturelle de la Serbie pourrait ne pas survivre au tournant autoritaire pris par le président Vučić.
Reportage de notre correspondant Laurent Rouy. Et puis pour terminer ce journal, on vous emmène à Aix-en-Provence, au musée Granet, qui met à l'honneur un enfant du pays et consacre une grande exposition au peintre Paul Cézanne. 135 de ses œuvres sont réunies, dont une centaine prêtées par des musées du monde entier ou bien issues de collections privées. Le visiteur peut également découvrir l'intimité de l'artiste à travers les lieux qui ont marqué sa vie, l'ancienne maison familiale ou encore son atelier dont la restauration vient de s'achever. Et Léonore Richard nous fait découvrir cette exposition inédite.
Entre les pins parasols se dresse l'atelier où Paul Cézanne a peint les quatre dernières années de sa vie. Au milieu de la pièce, la dernière palette de l'artiste, Bruno Elli, commissaire de l'exposition.
C'est très émouvant de voir dans une vitrine la dernière palette de l'artiste, encore chargée de couleurs. Et c'est cette dernière palette qui a permis à Cézanne de peindre notamment ses derniers grands chefs-d'œuvre, comme par exemple les Grandes Baigneuses, les dernières versions des Saintes Victoires, très simplifiées, qui marquent vraiment la période finale de la vie de cet artiste.
Et ce n'est pas le seul trésor de cette exposition. En restaurant la demeure familiale au sud d'Aix-en-Provence, une œuvre cachée de l'artiste, peinte à même les murs, a été retrouvée.
On a découvert, sans qu'on s'y attende du tout, un reste de peinture encore de Cézanne. C'est un grand bout de ciel avec deux bouts d'architecture, quelques mâts de bateaux qui montrent que c'était sans doute une vue de port.
Cézanne avait l'habitude de peindre sur ses murs. Ses fresques transformées en tableaux ont été dispersées aux quatre coins du monde. Et pour la première fois, elles ont toutes été rapatriées et réunies au musée Granet. Laurence, 66 ans, est venue redécouvrir le peintre.
Je suis contente parce que j'avais des souvenirs que j'ai retrouvés en revenant. Sa peinture est douce et une certaine sensibilité.
Célèbre joueur de cartes, nature morte, paysages impressionnistes et de rares autoportraits sont visibles au musée Granet jusqu'au 12 octobre.
Reportage à Aix-en-Provence d'Éléonore Richard. À l'autre bout de la France, en Bretagne, les célèbres mégalithes de Carnac et les rives du Morbihan pourraient rentrer au patrimoine mondial de l'UNESCO ce week-end. Ils rejoindraient ainsi le Machu Picchu, le Taj Mahal ou le Colisée. Au total, 30 candidatures de sites sont examinées cette année. Enfin, un mot de météo pour aujourd'hui. Des orages remontés d'Espagne touchent les Pyrénées. Le ciel reste menaçant du Sud-Aquitaine au Golfe du Lion avec de nombreux orages à partir de la mi-journée. Les pluies sont bien soutenues hein, sur l'est de l'Occitanie, s'accompagnent d'orages et de grêles. En soirée, ces orages se décalent sur la basse vallée du Rhône. Ils perdent un peu d'intensité et se déclenchent également sur le Mercantour. À noter, les Pyrénées-Orientales et l'Aude sont placées en vigilance orange, pluie et inondation. Sur les deux tiers de la moitié nord, en revanche, c'est du soleil. Et pour les températures maximales, comptez entre 23 et 34 degrés. Il est midi 45 sur France Culture. C'est la fin de ce journal préparé avec Alison Vicrobeck. À la technique aujourd'hui, Olivier Arnay.